Chapitre 24. Un après-midi à Harlem. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. Honoré de Balzac. Harlem, samedi 25 juin 2005. Joyce Carlyle referma derrière elle la porte de la maison dans laquelle vivaient habituellement ses deux sœurs au 266 Bilberry Street, une ruelle atypique, coincée entre la 131e et la 132e rue. C'est Tad qui, au dernier moment, lui avait demandé de changer le lieu du rendez-vous. Il se méfiait et ne voulait pas prendre le risque d'être vu devant chez elle. D'un sac en papier Kraft, Joyce sortit la bouteille de vodka qu'elle avait achetée quelques minutes plus tôt dans la boutique d'Isaac Landis. Bien qu'elle eût déjà pris plusieurs gorgées en chemin, elle avala coup sur coup deux nouvelles lampées qui lui brûlèrent la trachée sans lui apporter aucun réconfort. En ce samedi après-midi, un vent léger faisait frémir les feuilles des marronniers, filtrant une lumière douce qui teintait les pavés de reflets mordorés. Le printemps était partout, mais Joyce ne voyait rien du dehors. Ni les bourgeons sur les arbres, ni les massifs de fleurs devant la maison. Elle n'était qu'un bloc sombre de tristesse, de colère, de peur. Nouveau coup de torboyau avant de fermer les stores et de sortir son téléphone pour composer en tremblant le numéro de Florence Gallo.
« Florence, c'est Joyce. Il a changé l'heure du rendez-vous. »
Son interlocutrice fut prise de court, mais Joyce ne lui laissa pas le temps d'argumenter.
« Il arrive, je peux pas vous parler. »
Florence tenta de la calmer.
« Suivez exactement le plan que nous avons élaboré ensemble, Joyce. Fixez l'appareil sous la table de la salle à manger avec du ruban adhésif, d'accord ?»«
Je vais essayer. »
« Non, Joyce, n'essayez pas, faites-le !»
Dans le tiroir de la cuisine, elle trouva un rouleau de gros scotch, en découpa plusieurs bandelettes et s'en servit pour plaquer le mouchard sous un guéridon près du canapé. Au même moment, une voiture tourna au coin de la rue. Une Cadillac Escalade noire aux vitres teintées, qui marqua un arrêt sous les arbres. L'une des portières arrière s'ouvrit, permettant à Tad Copeland de descendre du véhicule. Puis, pour ne pas attirer l'attention, le SUV fit demi-tour et alla se garer plus loin, à l'angle de Lenox Avenue. Visage fermé, pull à col sombre, veston en tweed, le gouverneur ne s'attarda pas sur le trottoir et grimpa rapidement la volée des marches qui menait sous le porche du numéro 266. Il n'eut pas à sonner. Les traits tirés, les yeux brillants, le regard fou. Joyce le guettait par la fenêtre et lui ouvrit elle-même la porte. Dès les premières secondes, Copeland comprit que la partie allait être difficile. La femme dont il était autrefois tombé amoureux, si radieuse, si vive, s'était transformée en une bombe artisanale, détrempée d'alcool, imprégnée d'héroïne, dont on avait enclenché le minuteur.
« Bonjour, Joyce », lança-t-il en refermant derrière lui.
« Je vais révéler à la presse que Claire est ta fille », attaqua-t-elle sans préambule.
Copeland secoua la tête.
« Claire n'est pas ma fille. » Ce ne sont pas les liens du sang qui fondent les familles, tu le sais aussi bien que moi.
Il s'avança vers elle et prit sa voix la plus convaincante pour la raisonner.
J'ai fait tout ce que j'ai pu, Joyce. J'ai engagé un policier sur place pour être tenu constamment informé de tous les progrès. La police française est compétente. Les enquêteurs font tout leur possible.
Ce n'est pas suffisant.
Tad soupira.
Je sais que tu as repris la dope. Je ne crois vraiment pas que ce soit le meilleur moment.
Tu me fais surveiller ?
Oui, pour ton bien. Tu ne peux pas rester comme ça. Je vais te trouver une clinique pour...
Je ne veux pas d'une clinique ! Je veux qu'on retrouve Claire !
Un bref instant, par contraste, en la voyant hurler comme une furie, le visage défait et la bave aux lèvres, il se rappela à leurs étreintes, 15 ans plus tôt, sensuelle, harmonieuse, fougueuse, délicieuse. À l'époque, il avait éprouvé pour elle une attirance infernale, une passion physique et intellectuelle intense, qui n'avait pourtant pas grand-chose à voir avec l'amour.
« Claire est ta fille et tu dois l'assumer !»
rabâcha-t-elle.
« Il n'a jamais été question qu'on ait un enfant ensemble. Tu connaissais très bien ma situation. Excuse-moi de te le rappeler crûment, mais tu m'as toujours assuré que tu te protégeais. Et quand tu es tombée enceinte, tu m'as dit que tu n'attendrais rien de moi et que tu élèverais cet enfant toute seule.
Et c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans !»
rétorqua Joyce.
« Mais là, c'est différent !»
« Qu'est-ce qui est différent ?»
Claire a été enlevée depuis un mois, et tout le monde s'en fout, bordel! Lorsqu'on apprendra que c'est ta fille, les flics se donneront les moyens de la retrouver.
C'est absurde!
Ça deviendra une affaire d'État, tout le monde en parlera!
Le ton de Copland se fit plus ferme, teinté d'exaspération et de colère.
Ça ne changera rien, Joyce. Si cette révélation pouvait représenter une chance de plus de sauver Claire, je le ferais, mais ce n'est pas le cas.
Tu es gouverneur des États-Unis ?
Justement, je suis gouverneur depuis 5 mois. Tu ne peux pas torpiller ma vie comme ça.
Elle explosa en larmes.
Ce que je ne peux pas faire, c'est abandonner Claire sans réagir.
Copland soupira. Au fond, il la comprenait. Se mettant un moment à la place de Joyce, il pensa à Natasha, sa propre fille. Sa vraie fille, celle qu'il avait élevée. Celle dont il avait préparé les biberons à 3 heures du matin. Celle pour laquelle il s'était rongé les sangs chaque fois qu'elle tombait malade. Il admettait sans mal que, confronté à son enlèvement, lui aussi aurait tout fait pour la récupérer, y compris des actes vains et irrationnels. C'est à ce moment précis qu'il réalisa que l'enfer venait de s'ouvrir sous ses pieds et qu'il allait tout perdre. Sa famille, sa fonction, son honneur. Il allait tout perdre alors qu'il n'était en rien responsable de l'enlèvement de cette gamine. Il avait toujours assumé ses actes, mais de quoi était-il question dans cette affaire ? D'une relation entre deux adultes consentants ? D'une relation avec une femme qui, à l'époque, prônait et assumait sa liberté sexuelle ? D'une société hypocrite qui stigmatisait l'adultère, mais qui s'accommodait des hécatombes liées aux armes à feu ? Il n'avait pas envie de s'excuser pour son comportement. Il n'avait pas envie de faire acte de repentance.
« Ma décision est prise, Tad, » lança Joyce. « Tu peux t'en aller à présent. »
Elle lui tourna brusquement le dos, s'éloignant dans le couloir. Mais Tad n'était pas disposé à baisser les bras sans réagir. Il lui courut après, la rejoignit dans la salle de bain.
« Joyce, écoute-moi »
cria-t-il en l'attrapant par les épaules.
« Je comprends parfaitement la peine qui te submerge, mais tu n'es pas obligé de me détruire pour autant !»
En cherchant à se libérer de son emprise, elle le frappa au visage avec ses poings. Surpris, il commença à la secouer.
« Ressaisis-toi, bon sang, ressaisis-toi ! C'est trop tard !»
s'étrangla l'autre.
« Pourquoi ?
J'ai déjà contacté une journaliste.
Tu as fait quoi ?»
Elle hoqueta.
« J'ai rencontré une journaliste, tu Hérald. Florence Gallo, elle va révéler la vérité.
La vérité, c'est que t'es une sale petite garce !»
Longtemps contenue, la colère de Copland explosait tandis que Joyce cherchait toujours à se débattre. Il la gifla.
« Au secours, Florence, au secours !»
Animé d'une rage folle, Copland la secoua plus fort avant de la projeter brutalement en arrière. Joyce ouvrit la bouche pour hurler, mais elle n'en eut pas le temps. Elle tomba à la renverse, tendant désespérément le bras pour se raccrocher à quelque chose. L'arrière de son crâne percuta la vasque tranchante du lavabo. Un craquement sec, comme celui d'une branche de bois mort, résonna dans la pièce. Médusée, dépassée par son geste, Copland resta cloué sur place. Le temps ralentit jusqu'à se figer. Longtemps. Puis il reprit son cours par brusques saccades. Le corps de Joyce était allongé sur le sol. L'homme politique se jeta à son chevet, mais il comprit très vite qu'il était trop tard. En état de choc, il resta agenouillé une bonne minute, prostré, muet, sidéré, les mains et les bras agités de tremblements. Puis les digues sautèrent.
« Je l'ai tué !»
hurla-t-il en s'effondrant en larmes. Il avait perdu le contrôle pendant seulement 3 secondes. 3 secondes qui venaient de faire basculer sa vie dans l'horreur. La tête enfouie dans ses mains, il laissa la vague de panique déferler et le submerger. Puis la terreur reflua et il reprit peu à peu ses esprits. Il décrocha son portable pour prévenir la police. Il avait commencé à pianoter le numéro lorsqu'il s'arrêta net. Une interrogation le taraudait. Pourquoi Joyce avait-elle hurlé pour appeler cette journaliste à la rescousse ? Il quitta la salle de bain pour retourner dans le salon. Là, il ouvrit les tiroirs et les portes de l'armoire. Il inspecta les rideaux, les bibelots et les meubles. Il mit moins de 2 minutes pour trouver le portable scotché sous le guéridon et s'empressa de l'éteindre. Cette découverte eut sur lui un effet étrange. Elle le métamorphosa, transforma ses sentiments. À présent, il n'avait plus du tout l'intention de se rendre, de courber la tête ou de faire acte de contrition. Il se persuada facilement qu'il n'était coupable de rien. À bien y réfléchir, c'était lui la véritable victime. Il allait se battre et vendre chèrement sa peau. Après tout, la vie lui avait toujours souri. Ce n'était peut-être pas aujourd'hui que sa bonne étoile allait l'abandonner. Sur son téléphone, il composa le numéro de la dite bonne étoile, restée dans la voiture garée devant la maison.
Zora, viens vite. Et amène Blunt avec toi. Discrètement.
Qu'est-ce qui se passe, Tad ? Demanda la voix à l'autre bout du fil.
Il y a un problème avec Joyce.